Chapitre 15. Révélation. Non, non, pas de musique, répondait Madame Jolidon au discours pressant de son neveu, qui essayait de lui faire comprendre que, sans musique, il est impossible d'être tout à fait heureux. Si tu m'amènes ici de la musique, je me sauve, mon beau neveu. D'abord, c'est écrit sur les cartes d'invitation, pas de musique. Est-ce que la peinture ne saurait vous suffire avec la conversation et les petites pensionnaires et les petits gâteaux, les glaces, le thé, les jeux innocents ? Nous pourrons donc faire des rondes ? Demanda Jean Jolidon illuminé. Toutes les rondes du monde. Mais il faudra les chanter. Parfaitement, je n'appelle pas ça de la musique. C'est comme mon ultime tente, je ne vous cacherai pas que le plaisir languit un peu. Chacun a défilé devant le portrait de May, chacun l'a trouvé admirable. J'ai dit des vers, debout devant la cheminée, un murmure charmant a caressé mon cœur de poète. On m'a demandé de les copier, ces vers, dans 17 albums. Voilà de la besogne pour mes vacances. Après quoi, m'immolant au bien général, j'ai essayé de faire tenir un vers sur une aiguille à tricoter. Ça me réussissait dans le temps. J'ai cassé le verre, tout le monde a ri et ça leur a donné une minute de bonheur. Mais le bonheur est éphémère. Voilà les petites pensionnaires qui commencent à bâiller gentiment derrière leurs mouchoirs et à se dire « Ce n'est donc que ça, une matinée ?»« Votre matinée, ma tante, s'appellera les illusions perdues. »« Ah, faites ce que vous voudrez !» dit Madame Jolidon en riant. Des rondes, voilà le mot de la situation, s'écria Jean, bondissant hors du petit boudoir japonais où sa tante se tenait avec les personnes raisonnables. Toutes les rondes, les lauriers sont coupés et le pont d'Avignon et la bergère en colère, et nous en inventerons de nouvelles. Siméon Taubert, tout seul dans ce coin, déjà le barde des illusions perdues. Allons, mon fils, allons, nous sommes meneurs de rondes. Pauvre Siméon, triste meneur de ronde, devinant bien que son air accablé et tonné Ferdine l'inquiétait, il avait cherché à l'écart cette petite pièce mal éclairée, une sorte de couloir entre l'atelier et le grand salon, et dans l'angle le plus sombre, il réfléchissait. Il se sentait malade, la tête lui tournait par moments, ses jambes étaient molles, sa voix mal assurée. Parfois, un sommeil accablant tombait sur lui, et cependant, la nuit, il passait des heures entières sans dormir, regardant de ses yeux larges ouverts des chiffres danser sur le noir. C'était la fièvre de l'inquiétude, mais c'était aussi la fièvre de la faim, car sa ration de légumes, supprimée encore deux fois par semaine, son morceau de pain du matin et du soir, aurait à peine suffi au corps inactif d'un vieillard. Combien moins à ses jeunes membres remuants, à son cerveau qui s'obstinait dans l'étude pour regagner le temps perdu aux longues marches qu'il fallait faire de la rue Neuve à la salle des cours. Et comme la bise froide aiguise l'appétit, et qu'il serait délicieux de patiner une heure, le soir, sur le petit étang presque désert de la promenade. Siméon pensait à ses retours de patinage, à la maison, quand il rentrait affamé, et qu'il criait dès le seuil à sa tante Cornélie « J'ai un vide, tante, un vide jusqu'au talon !» Un pot de soupe se tenait chaud dans le four, le pain rond était couché au fond de la corbeille, et sur une assiette, il y avait une large tranche de galette aux œufs bien épaisse. Siméon voyait ces choses, et les larmes lui en venaient aux yeux. Il en avait honte, il morigénait sa bête affamée. En passant près du buffet richement garni qui occupait le fond de l'atelier, il avait détourné la tête, craignant de se donner en spectacle et de dévorer, s'il s'y mettait, toutes les tranches de galantine et tous les petits fours. Tomber malade, oui, ce serait une solution. Quand on est malade, on ne mange pas. Mais tante Cornélie accourait pour soigner son neveu, pour l'emmener, et alors elle apprendrait tout de Madame Martin et de Madame Boudinet. Tout, ses dettes, 3 mois de loyer maintenant, et le blanchissage, et toute une colonne de rations de légumes et de soupe, sans compter la première quinzaine du trimestre où il avait mangé à sa faim à crédit. Non, il ne fallait pas tomber malade, il fallait vivre de courage et d'énergie, se priver, attendre la bienheureuse arrivée des finances communales. Et alors, remettre à Madame Martin les 60 francs qu'elle réclamait avec acrimonie, à Madame Boudinet tout son dû également. En un mot, sauver l'honneur à tout prix. Était-il temps encore de le sauver? Ces deux estimables bourgeoises, fortes de leurs droits, n'avaient-elles point déjà parlé? La veille, Siméon, rapportant un livre au docteur Gaillère, avait trouvé un accueil froid, brusque et quelques mots sévères à l'adresse des jeunes gens qui se dissipent. Étonné, il avait fait sa visite aussi brève que possible. On ne l'avait point retenu. Et voici qu'en rentrant chez lui, au détour d'une rue, il avait aperçu sur l'autre trottoir les deux demoiselles Gaillère chargées de paquets. Vivement, il les avait rejointes et saluées. Mais Jeanne ne tira point de son manchon sa main bien gantée pour la lui tendre, et Clara refusa sèchement l'offre qu'il fit de lui porter ses paquets jusqu'à leur porte. Rougissant et blessé, car il était fier, il les quitta aussitôt. Elles inclinèrent à peine la tête en signe d'adieu. N'était-ce là qu'un caprice? Elles savent combien je suis pauvre, se dit-il avec amertume. Aussitôt, sa pensée chercha Ferdine. Oh, quel soulagement s'il pouvait tout confier à sa petite amie! Meneur de ronde, tel était le rôle que l'ironie du sort lui assignait, à lui dont le cœur était triste, la tête lasse et les jambes si fléchissantes qu'elle refusait presque de le porter. Il se laissa néanmoins emmener par Jean Jolidon, l'énergie lui manquait pour résister. Dans l'atelier et dans le grand salon, on allait et venait fort sagement par petits groupes. Sous un éclairage de lampes électriques savamment dissimulées, drapées de lourdes peluches qui faisaient tomber en nappes les rayons blancs, le portrait de May souriait dans un beau cadre et tout autour, sur des chevalets ou bien au mur, se groupaient des études de figures ou de paysages que Madame Jolidon avait rapportées de feuilles de trèfle, du midi, de ses voyages de l'année. On avait tout vu, tout admiré consciencieusement et les connaisseurs, ceux qui, tout au moins, osaient prononcer des mots techniques, avaient parlé d'empattements et de valeurs. Ensuite, il y avait le buffet, très intéressant aussi. Mais les bonnes manières ne permettaient pas qu'on y fût constamment. Et après, quoi? Oh non, pas de prestidigitateurs d'occasion, ils sont trop maladroits. Ils vous empruntent votre mouchoir, votre bracelet, et vous les rendent abîmés. Jean Jolidon avait déjà cassé un verre. Ferdine, elle, ne s'ennuyait jamais quand, de son coin, elle pouvait observer des figures inconnues et les placer dans des histoires. Ces histoires, elle les contait à Louise, qui la suivait comme son ombre, lui répondait comme un écho et l'admirait de toute son âme. Et c'était un plaisir fort tranquille qu'elle goûtait ensemble, riant et causant sans que personne fît attention à elle. Elle se demandait de temps à autre où donc Siméon avait disparu. Mais, en l'absence des demoiselles Gaillère, Ferdine n'avait pas les inquiétudes jalouses qu'elle eût repoussées d'ailleurs, car elle était bien changée depuis quelque temps. Tout à coup, Léa Gaillère les découvrit sur leur divan mauresque, dans un enfoncement, et accourut auprès d'elle. « Je me demandais où vous pouviez bien être, vous deux tourterelles toujours nichées ensemble. Pas de cavalier? Êtes-vous déjà allées au buffet ?» « Siméon nous a apporté des glaces tout à l'heure. »« Et il vous délaisse maintenant ?»« Il est sans doute fatigué, dit Ferdine. Je lui trouve mauvais visage. »« C'est vrai, répondit Léa si promptement et d'un air si grave que Ferdine s'étonna. » Au même instant, Siméon se trouva devant elle avec Jean Jolidon. « Mesdemoiselles, une farandole !» s'écria Jean. Que la chaîne se forme vite, vite, et qu'on se réchauffe. Nous avons l'air d'un équipage gelé au pôle Nord. Mademoiselle Arvoine et Siméon, premier anneau. Donnez-vous la main, je vous en prie. Nous n'avons pas une minute à perdre si nous voulons empêcher la congélation totale. Bon, voici Paul de Luz et sa cousine, second anneau. Ah, mes pauvres amis, farandolons pour animer notre souffle de vie. Et le jeune fou, avec des gestes comiques, abordant tous les groupes qu'il rencontrait, feignit de découvrir sur leur visage des signes alarmants de glaciation, disait-il. Des joues bleues, des nez verts, comme ceux que peint ma chère tante, osait-il ajouter à mi-voix. C'est des nez masculins que je parle, assurément. De tristes nez de naufragés, des barbes ou pendent des glaçons. On riait, on retrouvait quelque espoir de s'amuser. La chaîne de la farandole s'allongeait, on fredonnait, et bientôt on allait chanter à pleine voix l'air naïf qui fait si bien glisser et se balancer en cadence. « Gai, gai, faut passer l'eau !» Pauvre Siméon conduisant la farandole. Heureusement que Jean Jolidon, après avoir houspillé et réveillé tout son monde, vint bientôt le relayer. En mettant sa main dans celle de Siméon, très pressé de savoir ce que c'est qu'une farandole, Ferdine s'était écriée gaiement « Viens-tu, Louise ?» Et puis, elle avait couru derrière Jean, qui venait de saisir un des appuis-mains de sa tante et jouait de ce bâton comme d'une flûte magique. « Attendez un instant, j'ai quelque chose à vous dire, et c'est très sérieux, et il ne faut pas que Ferdine l'entende !» dit Léa, posant sa main sur le bras de Louise. Celle-ci resta incertaine, les yeux baissés sur la ceinture à longs flots de rubans d'un bleu doux où jouaient ses doigts. « Pourquoi Ferdine ne doit-elle pas l'entendre ? » demanda-t-elle avec défiance. « Parce qu'il s'agit de Siméon Taubert. Vous allez voir, je n'ai que de bonnes intentions, je vous assure, » fit Léa avec quelque impatience. « Vous êtes là comme l'alouette tremblante et moi le vautour. J'aime bien Ferdine à présent. » Je ne vous dis pas que je l'adore, je reste dans la vérité stricte. Elle m'a rendu deux services et je lui en rendrai au moins un. Et je vais vous confier cela très vite car j'ai peur que la farandole ne finisse sans moi. Siméon a mauvais visage parce qu'il a d'affreux soucis et peut-être qu'il ne mange pas à sa faim. Cela, je ne pourrais l'affirmer, mais il a des dettes, sa logeuse est venue s'en plaindre à papa qu'il a dit à maman. Il a eu joliment tort. « Moi, je ne dis jamais rien à maman. Bref, Jeanne le sait, et Clara aussi, et ça leur a jeté un verre d'eau froide. Elle croyait Siméon plutôt riche que pauvre. Sa chambre n'est pas payée, ni ses repas depuis un temps infini, ni son blanchissage. Vous voyez que je sais des détails. Il a fait un tas de bêtises, paraît-il. Papa est très fâché que maman lui ait permis d'être si intime avec mes sœurs. Il dit que le jeune Taubert est très bien dans son genre, mais pas de notre monde du tout, et que nous l'avons incité à faire des dépenses. Oh, cette farandole, les entendez-vous? J'ai d'abord délibéré en moi-même. Dirai-je cette fâcheuse histoire à Ferdine? Non, car elle n'y pourrait rien. Vous, Louise, vous y pouvez quelque chose. » Sur ce mot articulé très nettement et avec une intention marquée, Léa Gaillère s'éloigna de son pas gracieux et glissant, avec une ondulation un peu voulue, de sa taille mince comme un roseau.